Petite information pour les parents qui ne sauraient pas qu'il y a une garderie, s'ils veulent être un peu plus au calme. Et la garderie est en dessous des... Là, on part à ma gauche, là, et puis c'est en dessous. Elle est d'accord. Ne laissons pas retomber la joie de la victoire de Pâques. Ne laissons pas retomber la joie de la victoire de Pâques. Pourquoi je vous dis ça? Je parlais mardi dernier avec un collaborateur à Saumur, où je travaille, et puis notre discussion s'est élargie, et elle est venue sur le temps pascal. Et je me suis aperçu, il ne savait pas trop ni à quoi ce temps servait, ni à quoi ça correspondait, ni combien de temps ça durait, alors qu'il venait de fêter très sérieusement Pâques, et c'est un chrétien et une famille convaincue. J'ai réfléchi à ça et je me suis dit que c'est vrai, que souvent, on est assez bon avant un événement et moins bon après. Vous voyez, à aller vers, se préparer, ça correspond bien à notre psychologie. Par exemple, on se prépare au mariage, on prépare le baptême d'un enfant, Blanche, Lisa, Marie, Iriex et Gabriel, vous avez préparé votre première communion, le temps de l'Avent prépare Noël, le temps du Carême prépare Pâques, voilà, tout ça c'est très bien, c'est très bien. On sait qu'on va vers quelque chose de beau, de grand, de fort, mais l'ennui, c'est que parfois, quand l'événement est passé, alors, soit on oublie, soit on retrouve un peu l'amorosité du quotidien, soit on passe à un autre événement, quoi, on enchaîne. C'est souvent comme ça. Et c'est probablement un peu dommage. Oui, c'est vrai, la joie de Pâques, qu'on fêtait il y a 2 semaines encore, peut bien vite se perdre. Alors que le temps pascal, dans lequel nous sommes, est un temps de joie. C'est traversé comme par un cri de joie, comme par une jubilation qui sort des profondeurs de la terre. N'ayons pas la mémoire courte. Il est vivant. Et ça change tout. Le dernier verset du psaume, « Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. » Voilà, pour cette incarnation, cette mort et cette résurrection qui change tout. Alors pour rester dans la joie de Pâques, venons-en à ce nouveau récit d'apparition que nous venons d'entendre. Déjà le mot « apparition » ne doit pas nous tromper. Jésus ne vient pas d'ailleurs pour disparaître ensuite. Il nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc Jésus aujourd'hui, il est invisible, mais il est bien présent, il n'est pas absent. Et lors des apparitions, puisque c'est ça dont on parle, ben il se rend visible, tout simplement. Le mot grec dit même « il se donne à voir ». Mais il est tout aussi présent quand il ne se donne pas à voir. Mais alors c'est vrai que pour nous, ces évangiles sont formidables, ces manifestations de la présence du Christ au milieu des siens, juste après sa mort, sont un soutien pour nous, c'est sûr. Elles nous font du bien. Elles affermissent notre foi. Et la scène d'aujourd'hui, on l'a entendu, elle se passe sur le bord du lac de Tibériade. Et Jésus, ressuscité, se manifeste à ses disciples en train de pêcher. Mais ce qui m'a semblé intéressant d'essayer de repérer dans cette homélie, c'est comment les disciples, qui étaient désenchantés, qui étaient abattus, découragés, déprimés presque, après le choc de la mort de Jésus, comment ces disciples, ils ont été justement arrêtés dans cette spirale de l'échec, dans cette... Comment ils ont été stoppés dans leur résignation, dans leur état de, dans leur état de survivant. Déjà, notons que le travail semble pour eux le seul moyen d'oublier la mort de Jésus. Ils reprennent le travail ordinaire, pour essayer d'oublier leur désillusion, leur échec spirituel. C'est une première leçon qu'on peut entendre. Ils reprennent leur travail. C'est sans doute mieux que de rester sans rien faire, comme des âmes en peine. Mais, voyez, même dans le domaine professionnel, ils se heurtent à un manque de réussite. Ils partent à la pêche, mais l'Évangile nous dit, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Voilà, il n'y a plus rien qui va. De même, ils sortiront pas de cet enfermement d'un monde au goût amer suite à la mort de Jésus. De même, ils ne reconnaîtront pas celui qui pourtant se tient sur le bord, sur la plage, sur le rivage. Ni la figure, ni la voix. Et il leur a dit, les enfants, ça ne va pas leur permettre de comprendre qui leur parle. Ils ne reconnaissent pas la figure du ressuscité. Ils ne savaient pas que c'était lui, nous dit l'Évangile. Alors qu'est-ce qui va provoquer justement l'ouverture de leurs yeux, de leur regard intérieur? Comment viennent-ils à savoir, chacun pour sa part, qu'il s'agit bien de Jésus ressuscité? Ça m'a semblé intéressant de repérer ça, parce que nous aussi on peut être de temps en temps découragés, déprimés, abattus, désenchantés. Déjà on peut noter à quel point l'action de Jésus s'inscrit dans le quotidien. Dans le quotidien. Elle a un caractère éminemment pratique. Et le miracle que Jésus va faire, en quelque sorte, il va suspendre le cours ordinaire des choses simplement pour rouvrir les yeux de ses disciples et aussi pour leur dévoiler le don qui se cache derrière leur train-train habituel. Et le texte évoque plusieurs étapes. D'abord, la reprise du projet initial. Et oui, on repart encore à la pêche. On repart au travail. Mais cette reprise du travail, et c'est la nouveauté, là, elle est appuyée sur une parole qui traverse l'échec. Jetez le filet à droite et vous trouverez. Jetez le filet à droite et vous trouverez. Et les disciples constatent ensuite la force créatrice de cette parole. Et ça doit résonner pour nous qui entendons les paroles de Dieu, qui l'écoutons. Et cette parole, on peut dire jetée sur l'impossible, il n'y a pas de poisson. Et aussi la bénédiction qui justement va s'accomplir avec cette pêche miraculeuse, eh bien, elle va renouveler leur intelligence, renouveler leur cœur. Et elle va leur indiquer un sens, une destinée. Cette parole, elle devient comme une écriture nouvelle. Une écriture nouvelle dans laquelle la présence de Dieu va se dévoiler petit à petit. Voilà, ils retrouvent goût à la vie. On peut dire ça, ils retrouvent goût à la vie. Et puis dernière étape de ce renversement, ils étaient déprimés, ils retrouvent goût à la vie. Eh bien, ils trouvent un lieu tout préparé, sur la plage, autour d'un feu, pour les accueillir, pour se tenir ensemble. Peut-être pour se réchauffer s'il faisait un peu froid. Et puis un repas. L'Évangile nous dit un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Que du bonheur. Tout est prêt. Tout est prêt. Le maître nous appelle. Le maître les appelle. Quel magnifique récit pour nous aujourd'hui et pour vous, là, les quatre premiers communiants qui êtes invités à la table de la parole et à la table de l'Eucharistie, pour nous remettre encore et toujours, comme les disciples, dans le bon sens, dans le sens de la vie. Ne laissons pas retomber la victoire de Pâques. Le Christ est vivant. Et je voudrais terminer par deux détails très concrets de ce texte, qui sont assez étonnants quand même, mais qui ont une valeur symbolique. Est-ce que vous avez noté combien il y avait de poissons ? 153. Quand même bizarre, hein ? 153 poissons. L'Évangile nous dit qu'il y en avait 153. Alors pourquoi 153 et pas 154 ou une centaine ? Alors je suis allé chercher, et Saint Jérôme, au IVe siècle, a expliqué ça en disant qu'à l'époque de Jésus, on connaissait 153 espèces de poissons qui étaient référencées. Alors, du coup, j'ai demandé à mes filles, si c'était aujourd'hui, combien on aurait dit. Alors, elles ont cherché sur Internet. Alors, aujourd'hui, c'est 20 000 espèces de poissons qui sont connues. Vous voyez, on aurait dit 20 000. Et donc, 153, c'est une manière symbolique de dire que c'était la pêche maximum, en quelque sorte. Avec Jésus, c'est le maximum, c'est tout, quoi. Ça ne peut pas être plus, ça ne peut pas être mieux. Le tout, le maximum. Et alors un deuxième détail un peu curieux, en débarquant sur le rivage, les disciples trouvent un feu de braise, on l'a vu, et puis avec du poisson posé dessus, puis du pain. Bon, donc il y a tout. Et malgré ça, Jésus leur dit d'apporter du poisson qu'ils viennent de prendre. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'il en manquait du poisson ? Ouais. Je ne suis pas certain qu'on puisse se contenter de cette explication arithmétique. Il faut probablement en déduire que dans l'œuvre d'évangélisation qui est symbolisée par la pêche, Jésus nous précède. Voilà, Jésus nous précède. Il y avait déjà du poisson, il y avait déjà tout. Mais en même temps, Jésus sollicite notre participation. Voilà le sens du poisson qui était déjà posé avant l'arrivée des disciples. Amen.